Raide. Question importante dans la mesure où Castoriadis a été interpellé sur cette question parce que, évidemment, sa conception de l'autonomie, sa vision des sociétés en autonome et hétéronome, l'a fait soupçonner de européocentrisme ou plutôt de grécocentrisme, puisqu'il met toujours en avant ce moment d'autonomie qui a été la Grèce des cités antiques. Et on va voir comment, surtout dans des ouvrages postérieurs à l'institution imaginaire de la société, il a répondu à ce soupçon. Mais avant d'aborder ces autres ouvrages, il faut bien rappeler que dans l'ouvrage qu'on étudie, l'institution imaginaire de la société, donc qui date de 1975, cet ouvrage est tout entièrement consacré à une critique de sa propre société. C'est bien pour critiquer sa société et la transformer que Castoriadis écrit ce livre. Et évidemment, il ne va pas écrire pour transformer les autres sociétés. Et ce serait absurde par rapport à sa cohérence théorique, puisque ça voudrait dire que il considérait qu'il y a une homogénéisation, justement, ou universalisation possible de toutes les sociétés, et que changer la sienne entraînerait immédiatement de changer les autres. Donc c'est bien cohérent que son projet consiste à changer sa propre société, donc c'est bien celle-là qu'il critique. Et il la critique en premier lieu en disant précisément qu'elle n'est pas autonome. C'est précisément ce qu'il lui reproche. Donc on ne peut pas l'accuser en tout cas d'un européocentrisme ou d'une forme de privilège culturel accordé à sa propre société, puisque précisément c'est celle-là qu'il adresse ses reproches. D'autre part, s'il est vrai, comme on va encore amplement le voir, que Castoriadis pense qu'il vaut mieux vivre en autonomie qu'en hétéronomie, il y a de multiples manières de réaliser l'autonomie. En ce moment même, d'ailleurs, on peut dire que s'il y a un endroit dans le monde où elle est en train d'être réalisée, c'est pas en Europe, justement, ni aux États-Unis. Et la seule question qui va nous rester vraiment, qu'on doit lui adresser et qui va être difficile pour lui, c'est la question de savoir, alors, mais pourquoi faire ce choix de l'autonomie plutôt que le choix de l'hétéronomie? Voilà. Pourquoi? Quel est le fondement ultime, vraiment, de ce choix? Après, bon, il n'y a pas d'homogénéisation culturelle quand on réalise l'autonomie, parce qu'on peut le faire de plusieurs façons. Mais, alors avant d'en venir à cette question ultime, difficile pour lui, voyons pourquoi nous ne vivons pas dans une société autonome. La plupart des membres de notre société, et en particulier d'ailleurs les instances dirigeantes, n'ont absolument aucune conscience du fait qu'elles ont mis comme signification centrale et première de l'ensemble de l'organisation sociale quelque chose comme l'autonomisation de la sphère économique, ou la représentation de la croissance indéfinie comme but non interrogé. La plupart des gens n'ont pas cette conscience explicitement. D'autre part, la plupart ne sont pas conscients non plus que leur vision du monde, la vision du monde en général, donc la manière dont on se rapporte aux choses, dont on se rapporte aux autres êtres humains, aux autres formes de vie, etc., tout ça, la manière dont on se voit, dont on voit notre rôle dans le monde, tout ça est institué par notre imaginaire radical. Tout ça, c'est nous qui l'avons créé. Ce n'est pas une nécessité, c'est pas nécessairement universel. Tous les êtres humains ne doivent pas automatiquement passer par ça. Non, c'est quelque chose qui a été institué par nous et qui n'est pas nécessairement institué par toute société. Il n'y a pas une conscience généralisée de ça. Donc nous ne vivons pas dans une autonomie qui serait une clairvoyance sur nos propres principes, qui serait une conscience de nous, une conscience réflexive qui irait jusqu'à assumer totalement cette institution par nous-mêmes. Donc, quelles sont les institutions premières qui commandent notre vision du monde? Quelle est notre signification centrale autour de laquelle tournent toutes les autres et sont organisées toutes les structures sociales? Comment l'autonomie réelle de ces institutions, puisqu'on sait que réellement il y a une autonomie, comment est-elle occultée sous des hétéronomies? Comment ça se passe chez nous? Et comment finalement est-ce qu'on peut comparer ce manque d'autonomie chez nous à des moments qui ont été exceptionnels dans l'histoire? On va revoir tout ça d'une façon qui va nous permettre aussi de répondre à la question du relativisme. Récemment, j'ai entendu lors d'un débat quelqu'un dire que, d'après un anthropologue, mais je ne sais pas lequel, il était impossible de sortir du mythe Et nous, dans notre société, nous sommes aussi prisonniers du mythe que les sociétés que nous étudions, hein, par l'anthropologie, et donc dont nous étudions particulièrement la forme mythologique. Et cette affirmation, nous sommes tous prisonniers du mythe, il n'est pas possible de sortir du mythe, Castoriadis dirait que elle est partiellement vraie, mais à certaines conditions. C'est-à-dire que si on prend mythe dans le sens courant de illusion, hein, discours faux, comme on dit par exemple la croissance est un mythe, hein, etc., c'est un mythe. Bon, donc comme on l'utilise couramment, alors on peut dire que effectivement notre société est aussi dans le mythe, c'est-à-dire elle est dans l'illusion. En revanche, la deuxième partie de l'affirmation, c'est-à-dire il est impossible de sortir du mythe, ça, Castoriadis, quel que soit le sens qu'on donne à mythe, la refuserait. Pourquoi ? Mais parce que ça voudrait dire qu'il est impossible de se désaliéner, ça voudrait dire qu'il est impossible d'atteindre une autonomie, de prendre conscience de soi, de prendre conscience des raisons pour lesquelles on fait les choses. Donc évidemment, il dirait que c'est faux. Hein. Nous ne sommes pas à ce point prisonniers du mythe que nous ne pourrions pas en sortir. Bon, mais de quoi est-ce qu'on doit sortir ? Qu'est-ce que l'imaginaire du monde moderne ? Alors, c'est le titre d'un des chapitres de l'ouvrage, et donc je le reprends tel quel, mais qu'est-ce que veut dire exactement l'expression « le monde moderne » quand Castoriadis l'utilise ? C'est au sens de la culture dominante, contemporaine, culture, donc on pourrait dire, européenne à tendance mondialisatrice, hein, donc qui a tendance à s'épandre partout, qui est d'origine européenne, mais qui, attention, pour être dominante, n'en est pas la seule pour autant. Je veux dire, ce n'est pas la seule culture, ce n'est pas la seule manière de voir le monde qui existe même à l'époque contemporaine. Mais c'est celle qui domine, qui est la plus répandue, qui est hégémonique, enfin qui essaye de s'imposer à toutes les autres. Donc voilà ce qu'il appelle l'imaginaire du monde moderne. Je vais développer ici certains passages que vous pouvez retrouver à peu près aux pages 235-248, si vous voulez les retrouver, mais en faisant certaines précisions qu'il ne donne pas, parce qu'il y a des choses qu'il considère comme assez évidentes. Quand il parle de rationalité, il ne prend pas la peine de préciser les différents types de rationalité, etc., alors que je pense que c'est assez essentiel pour comprendre son propos. Donc je suis un tout petit peu plus précisée que lui. Donc il y a certaines choses, il y a énormément de choses que je n'aborde pas du livre, mais il y a aussi certaines choses où je déborde un peu par rapport à lui. Donc je vous signalerai chaque fois pour que vous sachiez ce qui est vraiment de lui et ce qui ne l'est pas. Alors la culture moderne, on peut dire qu'elle est fondée sur la rationalité et sur la science. Mais son rapport au monde est double. Il est à la fois scientifique et instrumental. Dans les deux cas, on peut parler de rationalité. Rationalité scientifique, rationalité instrumentale. Le rapport scientifique au monde, c'est celui dans lequel nous baignons depuis notre naissance. Depuis nos premières questions, on nous répond par des raisons scientifiques. Nous voyons bien que toute notre vision du monde consiste à essayer d'expliquer les choses, de comprendre leur fonctionnement, de savoir comment le monde a évolué, comment l'univers est apparu. Et tout ça de manière scientifique, c'est-à-dire en mettant au point des méthodes d'observation les plus fines possibles, d'expérimentation, de justification, de vérification, etc. Donc en mettant au point toute une série de méthodes pour essayer d'atteindre la vérité du monde, la vérité de son fonctionnement, de sa composition, de son évolution. Ça, c'est notre attitude scientifique. Elle est normale pour nous. C'est la plus normale, c'est celle qu'on découvre quand on naît et qu'on entretient constamment dans notre société. C'est une attitude qui est apparue à un certain moment dans l'histoire. Elle n'a pas toujours appartenu à l'espèce humaine. Elle est apparue, on peut dire pour la première fois, dans la Grèce ancienne. Pour la première fois, ont été mises en question des explications très anciennes, traditionnelles, qui reposaient essentiellement sur des légendes, des histoires de dieux qui se partagent le monde, des personnifications d'éléments naturels. Vous savez bien, la terre, le ciel se sont installés comme ça, ils ont fait des enfants qui sont devenus, etc. Bon, il y a eu une mise en question tout à fait consciente et volontaire de ce type d'explication et un rejet tout à fait volontaire et même parfois virulent de tout ce qui était religieux et mythologique au nom d'une nouvelle rationalité, une rationalité qui venait de naître et qui était la philosophie au sens large, c'est-à-dire qui englobe la science, l'interrogation sur l'homme, l'éthique, etc. Donc ça a été conscient et volontaire et ça s'est apparu pour la première fois en Grèce, mais il a fallu que ça réapparaisse une deuxième fois. Et ce n'est pas par hasard si ça correspond aux deux moments d'autonomie. La revendication scientifique correspond à la revendication d'autonomie politique. C'est apparu donc une deuxième fois à la Renaissance. Après ce qu'on peut appeler une certaine éclipse de la rationalité, qui ne veut pas dire du tout qu'elle a disparu. Pendant le Moyen-Âge, la rationalité n'avait pas disparu, mais elle s'était mise au service de la religion révélée. Elle s'est mise au service. Donc, par exemple, le Moyen-Âge, c'est un moment où il y a un développement extraordinaire de la logique, mais une logique qui ne peut pas se prononcer sur les questions ultimes. Les questions ultimes sont résolues par la religion, par la révélation. Et la logique ne peut pas venir les contredire. Elle peut simplement essayer d'aménager à l'intérieur de ce cadre toute une série de démonstrations, d'argumentations, et même essayer de donner une cohérence là où il n'y en a pas, de manière tout à fait évidente dans les Écritures. Donc il y a eu une certaine éclipse de la rationalité scientifique, et elle a besoin d'être reconstruite de nouveau de manière opposée, consciemment et volontairement opposée à l'explication religieuse. Et le rapport, c'est pas seulement le rapport de l'homme au monde qui est caractérisé par cette attitude, c'est aussi le rapport, justement l'étude de l'homme lui-même et de la société. Les sciences humaines sont nées en même temps que les sciences naturelles. En même temps, il y a eu des interrogations sur qu'est-ce que l'homme, quelles sont ses capacités, où peut-il aller, quel est son sens, le sens de sa vie, quel est son destin. Donc c'est venu en même temps. Et souvent, ça utilise à peu près les mêmes méthodes. Il y a vraiment une méthode scientifique appliquée à l'étude de la société ou de la psychologie humaine. Alors là, évidemment, il y a une certaine opposition entre courants de ces disciplines pour savoir si on copie de très près les sciences naturelles ou si on estime qu'il faut une autonomie, enfin une indépendance des méthodes en sciences humaines par rapport aux méthodes en sciences naturelles. Par exemple, de manière très connue, une opposition entre le courant psychanalytique et le courant, disons, neuroscientifique dans l'explication du comportement humain. Voilà une opposition assez radicale quant à savoir si les méthodes des sciences naturelles suffisent à l'explication de l'humain ou ne suffisent pas, et il est nécessaire de développer d'autres méthodes. Mais dans tous les cas, il y a vraiment le développement d'une méthode qui se veut scientifique, c'est-à-dire qui ne se veut pas simplement un récit qui raconte une histoire allégorique et qu'on pourrait approcher par métaphore ou par analogie. Quant au rapport instrumental au monde, donc ça c'est le rapport scientifique au monde qui fait vraiment partie de nos significations premières, de notre attitude première, spontanée. Quant au rapport instrumental au monde, il est apparu plus tard et pour des raisons autres, en ayant recours à des significations nouvelles qu'on pourrait rechercher, je ne vais pas le faire ici, mais qu'on pourrait rechercher de la même manière que Castoriadis a essayé de réfléchir sur ce qui avait permis l'apparition d'une signification nouvelle comme l'exploitation de l'homme par l'homme, ou comme le fait d'esclavagiser un être humain. Donc on pourrait chercher ces raisons, mais en tout cas, quand on parle de relations instrumentales au monde, il est important, pour que ce soit vraiment caractéristique de notre société, de ne pas le comprendre au sens de simplement une utilisation du milieu naturel pour subsister. Parce que ça, évidemment, c'est commun à tout le vivant. Tout le vivant, évidemment, utilise le milieu naturel et son environnement pour survivre, bien entendu. Donc ce n'est pas le fait d'utiliser qui est caractéristique de notre attitude. C'est le fait que cette instrumentalisation est poussée à un comble tel que, donc premièrement, toutes les ressources de la Terre, et même au-delà, si on pouvait aller au-delà de la planète, on irait aussi, donc toutes les ressources sont a priori mobilisables dans un but qui est uniquement le profit et sans aucun souci de préservation, de conservation, de protection ou même d'une jouissance autre de ces ressources. Parce qu'après tout, on pourrait avoir quand même une jouissance, par exemple, esthétique de la Terre, non ? Ça serait bien agréable aussi. Eh bien non, cette jouissance esthétique est elle-même empêchée par la jouissance instrumentale puisque tout est transformé pour pouvoir être utilisé par la société industrielle. Donc ça, c'est le rapport instrumental au monde. Et ce n'est pas du tout anodin de se rendre compte que la rationalité scientifique n'est pas nécessairement accompagnée d'une rationalité instrumentale, contrairement à ce qu'on entend souvent. Il y a souvent une confusion, une association croient exagérées entre science et technologie, ou entre connaissance, disons, connaissance pour la connaissance et connaissance pour l'instrumentalisation économique. Il faut les distinguer, ne fût-ce que parce qu'à certaines époques, elles ont été indépendantes. Et c'est vrai que, bon, dans la Grèce ancienne, je vous cite un exemple très précis que vous pouvez vérifier. Au début de la métaphysique, de sa métaphysique, Aristote écrit « Nous sommes arrivés dans une époque où toutes les techniques nécessaires pour assurer notre confort sont suffisamment développées, nous n'avons plus besoin de les développer, maintenant nous allons pouvoir nous consacrer tout entier à la vraie science, la science désintéressée, la science qui, n'est pas, qui ne sert absolument pas à la pratique, au confort, à la production. » Donc, alors, c'est remarquable, à double titre évidemment, c'est remarquable pour la valorisation de la science désintéressée, hein, d'une science non utilitaire, c'est celle-là qui est noble, qui est estimable, mais c'est remarquable aussi de constater que les Grecs du IVe siècle avant notre ère considéraient que leur développement technique était suffisant, qu'ils n'avaient vraiment pas besoin d'avoir plus. Alors nous, on est dans un rapport complètement inversé entre les deux. On n'en a jamais assez de technique, jamais assez de développement du confort, et au contraire, pour ce qui s'agit de la science désintéressée, eh ben, il semble bien que ça, c'est complètement secondarisé. Hein. La science, voilà où je voulais en venir, la rationalité scientifique n'est pas la signification dominante de notre société, même si elle nous est propre tout de même, hein, même si historiquement elle nous est propre, c'est nous qui l'avons créée. Elle n'est pas ce qui domine. Elle n'est pas ce qui domine parce que la science est subordonnée en fait à son potentiel technologique et économique. Bon, c'est... On peut rediscuter de ça, mais je crois que c'est assez évident pour tout le monde ici qu'on ne finance que la science qui est applicable, hein, qui peut déboucher sur des résultats économiques. Donc ce qui domine notre imaginaire et nos institutions, c'est la rationalité instrumentale. Et la rationalité instrumentale, Castoriadis l'appelle une pseudo-rationalité. Il l'appelle une pseudo-rationalité, donc une fausse, parce qu'elle est dépourvue de sens, elle est totalement dépourvue de sens, et elle en arrive même à aboutir, à créer sa propre autodestruction. La raison en est que cette rationalité s'est complètement autonomisée, donc dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire est devenue autonome des raisons pour lesquelles on l'a promue. Elle fonctionne désormais toute seule comme un processus en inertie, qui est parti en inertie. On développe, on développe, on développe. Il faut remarquer cependant, quand on dit ça, que ce n'est pas au sens propre que la technique avance toute seule, se développe toute seule. Il y a des gens qui décident ce développement. Hein, il y a toujours des gens qui décident ce développement, même s'ils ne savent pas pourquoi. Même si eux-mêmes sont pris dans une sorte de fuite en avant et qu'ils ne savent plus pourquoi ils développent ça. Mais bien entendu, ce sont des gens qui décident de financer ce genre de choses, ce sont des gens qui décident de le faire, de le réaliser, hein, l'augmentation constante des techniques. Et je vous lis un petit extrait de Castoriadis, c'est à la page 236. Il dit « La pseudo-rationalité moderne est une des formes historiques de l'imaginaire. » Bon, ça on sait, hein, c'est développé, c'est un produit de l'imaginaire radical. « Elle est arbitraire dans ses fins ultimes, dans ses fins ultimes, donc son but ultime, ce pourquoi on la met en processus. Elle est arbitraire dans ses fins ultimes, pour autant que celle-ci ne relève d'aucune raison. Et pourquoi est-ce qu'elle dit que ses fins ultimes ne relèvent d'aucune raison? Mais si vous prenez une fin comme le profit n'est pas une raison. Le profit, c'est un désir complètement immaîtrisé, complètement non interrogé. C'est un désir sur lequel nous n'avons, dont nous sommes complètement esclaves, sur lequel nous n'avons justement aucune attitude rationnelle. C'est le profit, ce n'est pas une raison. Donc, aussi bien elle est arbitraire dans ses fins ultimes, et elle est arbitraire lorsqu'elle se pose elle-même comme fin. Donc, elle a deux justifications. Ou bien elle se donne ça comme fin, ou bien elle ne se donne même plus de justification finale, de justification comme un but, mais elle se pose elle-même comme fin, c'est-à-dire que le développement de la technique ne se fait que pour lui-même. Le développement de la production ne se fait que pour lui-même. Donc, en ne visant rien d'autre qu'une rationalisation formelle et vide. Formelle et vide. On rationalise la production, on rationalise l'efficacité technique, pas toujours au point d'ailleurs, Mais cette rationalisation, elle est vide parce que, voilà, elle a pas de but. Elle n'a pas de but ou un but tellement peu rationnel. Et je termine la citation. Dans cet aspect de son existence, le monde moderne est en proie à un délire systématique. Un délire, on délire là, hein. Continuer comme ça, c'est un délire. Dont l'autonomisation de la technique déchaînée et qui n'est au service d'aucune fin assignable, est la forme la plus immédiatement perceptible et la plus directement menaçante. Donc remarquez qu'à l'époque déjà, la technique est bien sentie comme quelque chose de menaçant. Le fait qu'elle s'autonomise est complètement menaçant. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, on est allé plus loin dans cette tendance. Je vous citerai encore un exemple. Il est absolument effrayant d'entendre de la part d'un philosophe qui fait partie de comités de bioéthique, d'entendre dire « si on peut le faire, on va le faire ». Et c'est pourtant, c'est la vérité de notre époque. Si on peut le faire, on va le faire. Mais si on peut le faire, ça dépend de nous. Ça dépend de nous de savoir si on peut le faire ou pas. Ça dépend du financement qu'on mettra dans la recherche pour le faire. Donc c'est même pas innocent, c'est même pas pour dire, bon, c'est une sorte de fatalité, on est bien obligé de faire avec les ressources naturelles qui existent. C'est pas ça. Ici, il s'agit de dire, tout ce qu'on va décider de développer, ensuite on décidera de l'appliquer. Ensuite, ça gouvernera nos vies. Ça s'installera partout dans tous les domaines de la vie. Et on fait comme si on n'avait pas une décision à prendre en amont, c'est-à-dire une décision pour dire « mais est-ce que c'est ça qu'on veut ? Et est-ce que donc on veut développer cette recherche ou pas ?» Non, jamais. Et donc, je vous dis, c'est effrayant, parce que moi, je l'ai entendu dire par un philosophe, membre d'un comité de bioéthique. C'est vous dire si on est protégé par eux. Alors, il y a parfois une autre fin rationnelle qui est revendiquée par la société industrielle pour justifier sa production économique, c'est le bien-être commun. Parfois on entend cette justification, c'est le bien-être commun. Mais le problème, c'est que le bien-être commun n'est défini que justement par rapport à la production économique. Et donc on a une légitimation qui est circulaire. On demande pourquoi faut-il toujours plus de production, on nous répond c'est pour le bien-être général. Et puis on demande, mais qu'est-ce que le bien-être général ? Eh bien, c'est quand il y a toujours plus de production. Et donc voilà, c'est une justification circulaire, et c'est important de le dénoncer. De ce fait, donc l'économie capitaliste, qui prétend fonder sa légitimité sur la rationalité, au plus haut point, plus que toutes les autres sociétés, on voit qu'en fait, elle est extrêmement dominée par l'imaginaire, elle est peut-être plus encore que les autres dominée par l'imaginaire, par cet imaginaire qu'elle a créé elle-même, et qui est ce qu'on vient de décrire. Donc on l'a déjà vu à propos des besoins qui sont créés de manière incessante par l'imaginaire. On peut ajouter aussi la domination de l'imaginaire quant à la place assignée à l'homme dans le processus de production. Qu'est-ce qu'un être humain dans une société qui est dominée par l'économie ? Un être humain, c'est une donnée économique. C'est un indicateur d'efficacité. C'est mesuré en fonction de sa capacité de contribuer à la production générale. Et c'est réduit à ça, un être humain. Alors, on avait déjà vu, à propos de l'explication marxiste de l'apparition des classes sociales, que le fait de considérer un homme comme une chose, ce qui est le cas quand on le considère comme un rouage d'une machine, comme un instrument parmi d'autres, le fait de le considérer comme une chose, donc la réification, est quelque chose, dit Castoriadis, qui est beaucoup plus difficile en fait à imaginer que de le considérer comme un hibou dans un système totémique. Parce que, du moins, le hibou a plus de rapport avec l'humain, et on peut plus comprendre le rapprochement que le fait de considérer un homme comme un instrument, comme un outil, comme une partie purement machinique. Alors, il est vrai qu'il y a une évolution dans le management, et que les techniques de management se sont adaptées pour toujours plus de rentabilité et qu'on a introduit parfois à la place de l'instrumentalisation simple une forme d'épanouissement du travailleur dans le groupe, adaptation des fins de l'entreprise aux fins du travailleur, adaptation de la satisfaction du travailleur à la satisfaction de l'entreprise, etc. Donc il y a eu des techniques plus subtiles d'utilisation, mais il n'empêche que les hommes sont toujours aussi bien considérés uniquement selon leur statut et les positions qu'ils occupent dans un certain système hiérarchique. Ils sont tout de même réduits à leur collaboration et à leur place dans ce système. De toutes ces observations, on peut conclure que le trait le plus spécifique de l'imaginaire du monde moderne, c'est d'être limité au rôle de l'entendement. Alors, l'entendement, c'est cette faculté donc, qu'a distingué Kant, il a distingué de la raison, et c'est cette faculté qui est uniquement la faculté qui permet d'adapter les moyens à la fin. C'est-à-dire c'est une faculté qui permet de raisonner une fois que le but est donné, ou une fois que l'aboutissement est donné. Alors on peut raisonner sur les meilleures manières d'atteindre cet aboutissement donné. Mais c'est la raison, d'après Kant, hein, qui lui donne une définition plus étroite que la plupart des philosophies, il faut le savoir, mais c'est la raison qui est la faculté justement qui pose ses fins, qui pose ses buts, qui se donne ses aboutissements. Et donc Castoriadis dit que l'imaginaire moderne donc, ignore les questions des fondements, de la totalité, des fins et du rapport de la raison avec l'homme et avec le monde. C'est pourquoi nous avons appelé sa rationalité une pseudo-rationalité. C'est une pseudo-rationalité parce qu'elle n'est que, c'est la définition d'instrumental, elle n'est que une adaptation des moyens à des fins qui, elles, ne sont pas interrogées. Et il vit pour l'essentiel dans un univers de symboles qui, la plupart du temps, ni ne représentent le réel, donc ce n'est pas des symboles qui sont directement en relation avec le réel, par exemple, une symbolisation de « il faut que je produise mon alimentation », ce n'est pas ça, ni ne sont nécessaires pour le penser ou le manipuler, le réel, ce ne sont pas non plus donc des symboles qu'on pourrait dire scientifiques, qui sont utilisés pour comprendre le monde, le penser, le manipuler. C'est celui qui réalise à l'extrême l'autonomisation du pur symbolisme. Pourquoi autonomisation du pur symbolisme? Parce que l'homme moderne, il peut passer toute sa vie à considérer des choses complètement détachées du réel. Par exemple, des tableaux de chiffres, des indicateurs de croissance, tout ce genre de choses qui n'a de sens qu'à l'intérieur d'un certain cadre donné, c'est-à-dire le cadre de l'entreprise. Que si vous sortez de ce cadre de l'entreprise, toutes ces choses n'ont plus aucun sens et on peut passer toute sa vie à faire ça, donc complètement déconnecté du réel. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire qu'une organisation économique peut survivre si elle n'est pas efficace. Il faut un minimum d'efficacité, donc il faut un minimum de rationalité instrumentale. Toutes les économies en ont ce minimum. Mais la grande différence, c'est que dans les autres sociétés, les finalités principales de la vie humaine ou les préoccupations principales de la vie sociale ne sont pas cela. Cette production, elle est complètement subordonnée à d'autres visées essentielles de la vie humaine ou à d'autres activités qui sont considérées comme essentielles de la vie humaine et pas du tout la production. Elle est un moyen, justement. Dans ses derniers écrits, donc qui datent de la fin des années 90, Castoriadis en vient même à douter qu'il y ait une rationalité du capitalisme, même réduite à la rationalité instrumentale. Et il prend pour exemple toute une série de signes que le capitalisme est autodestructeur. Et que donc, en fait, il n'est même pas rationnel au sens instrumental, sinon il devrait au moins viser à sa propre perpétuation. Premièrement, il signale que s'il n'y avait pas eu les luttes sociales concomitantes, contemporaines du capitalisme, s'il n'y avait pas eu les luttes sociales, il se serait effondré très rapidement sous ses extraits de production. Ce sont les luttes sociales qui l'ont sauvé, en quelque sorte, parce qu'elles ont permis des augmentations salariales, qui donc ont permis de la consommation, et une diminution de la production par la diminution des heures de travail, de telle sorte qu'on a pu absorber, donc cette nouvelle classe consommatrice a pu absorber tous les excédents du capitalisme. Sinon, il se serait effondré. Je ne sais pas si on a bien fait. Mais... Alors, il cite aussi, bien sûr, comme exemple de cette autodestruction, la tendance qui devient maintenant complètement flagrante à épuiser ses ressources et à entrer dans des points de non-retour en ce qui concerne la pollution, toutes sortes de destructions qui vont rendre la vie de plus en plus difficile, voire impossible. Il dit aussi que le refus de ce système de tout contrôle et de toute vision au-delà du court terme l'empêche donc d'affronter les conséquences de ses propres activités et par exemple de réfléchir à son extension à tout le genre humain, à tous les continents, de telle sorte que voilà, c'est un système qui n'a même pas ce minimum de rationalité-là d'évaluer ses propres conséquences. Cependant, Castoriadis se garde bien de prédire la chute du capitalisme ou son adaptation infinie, comme c'est un débat, disons, très fourni et peut-être un peu lassant dans les milieux marxistes actuels. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la question principale devient est-ce qu'il va s'effondrer tout seul ou est-ce qu'il va sans cesse renaître, redécouvrir des manières de se surmonter lui-même. Bon, mais ce n'est pas la question pour Castoriadis. La question pour lui, c'est de dire l'avenir dépendra des réactions et des actions des populations. Et là, il nous ramène, voilà, il nous ramène au fait que le sujet de l'histoire, c'est quand même les êtres humains. Et qu'on a beau dire qu'il y a un processus un peu inertial, un peu autonomisé, il n'empêche que c'est l'intervention des êtres humains qui déterminera le futur. Et ce n'est pas la peine d'essayer de dire si le capitalisme, c'est un système qui, par lui-même, par, automatiquement ou par nécessité interne, doit s'effondrer ou au contraire doit constamment renaître de ses contradictions. C'est pas la peine de... On s'en fout finalement de répondre à cette question, vous voyez. C'est pas la peine de se déchirer là-dessus. Ce qui compte, c'est ce que nous, on va en faire. Donc là, je pense qu'il a une attitude assez intéressante. Alors, un autre domaine important dans lequel on peut vérifier certaines illusions du monde moderne ou de la société capitaliste, c'est celui de la temporalité. Et donc là, je vais faire un petit panorama de ce que différentes sociétés, de la manière dont différentes sociétés peuvent penser la temporalité. C'est une question très importante parce que, comme vous savez, toute société s'inscrit nécessairement dans une histoire. Toute société, elle se transforme elle-même, elle a sa propre histoire, elle fait sa propre histoire. Et en même temps, le temps est une institution de l'imaginaire radical. Le temps, c'est nous qui l'avons institué. Alors, pas le devenir, le fait que les choses se transforment, le fait que l'univers évolue, c'est pas nous qui le faisons. Mais le temps, c'est-à-dire la mesure de ça, ou la manière dont nous comprenons, interprétons cette évolution, la manière dont nous la mesurons et éventuellement essayons de la modifier par notre activité, ça, c'est institué. Donc c'est une question qui est importante puisque le social est toujours lié à l'historique. Et toute société, en fait, dit Castoriadis, institue une double temporalité explicite. Donc explicite, c'est-à-dire qu'elle dit, qu'elle représente, qu'elle transmet, qu'elle enseigne. Donc elle a une double temporalité explicite. Alors, je vais faire un petit schéma. Donc, la temporalité de toute société, est explicitement double, elle est identitaire. Elle est identitaire et elle est imaginaire. Alors, imaginaire est pris ici dans un sens second, bien sûr, puisqu'on sait que au sens radical, l'imaginaire est antérieur à tout, de toute façon. La temporalité explicite identitaire, c'est le temps justement de la mesure, c'est l'institution de la mesure. C'est la manière dont nous posons des repères dans le temps, pour nous situer par rapport à lui. Toute société a des repères dans le temps, même si elle n'a pas une instauration scientifique du temps. Elle a toujours des repères, et ces repères sont, nous l'avons vu, étayés sur les phénomènes naturels. Il est évident que toute société se situe par rapport au jour et à la nuit. C'est évidemment des unités de temps qui existent partout, et pour cause, au jour et à la nuit, ou à l'année, et aux saisons, etc. Donc tous ces phénomènes naturels, évidemment, sont des étayages pour des repères temporels. Mais on peut avoir des mesures beaucoup plus précises, justement, comme la nôtre, division en heures, minutes, secondes, ou comme d'autres qui peuvent être du même type, mais différentes. Donc ça, c'est le temps identitaire, c'est le temps qu'on peut dire aussi du calendrier. Et toute société a plus ou moins un calendrier, se donne plus ou moins un calendrier, même si elle ne compte pas les années, mais de toute façon, elle a une série de repères identitaires. Alors, la temporalité explicite imaginaire, c'est l'ensemble de toutes les significations qui sont ajoutées à ces repères et à ces mesures. Et il n'y a jamais d'institution identitaire qui ne soit pas accompagnée d'institutions imaginaires. Par exemple, le retour des saisons signifie toujours plus que la simple succession, hein, que la simple répétition d'événements identiques. Ça signifie beaucoup plus, dire le début du printemps ou le début de l'été, ou les solstices par exemple, sont toujours l'occasion de réjouissances particulières, hein, de fêtes particulières ou de rites particuliers. On y attache des significations beaucoup plus, bien au-delà de leur simple constatation astronomique. Les jours de la semaine aussi, par exemple, une fois qu'on a découpé la semaine en un certain nombre de jours, parmi lesquels il y a des jours de travail et des jours de repos, eh bien, on attache des tas de significations aux jours de travail et aux jours de repos. Et ça donne, par exemple, des créations d'expressions comme le lundi au soleil ou la semaine des quatre jeudis. Pourquoi on dit ça, hein? Le lundi en lui-même, c'est un jour auquel s'attache un sentiment de déplaisir. C'est le jour où on retourne au boulot. Le lundi, on ne l'aime pas, le lundi. Et on déplore qu'on ne puisse pas aller le passer au soleil, non? Et c'est justement ce jour-là que le soleil revient après un dimanche de pluie, non? Alors, la semaine des quatre jeudis, elle n'a de sens que si le jeudi est jour de congé, évidemment. C'est alors qu'on la désire. Donc le jeudi, il prend une signification tout autre que d'être simplement le quatrième jour de la semaine, posé arbitrairement, hein, de manière tout à fait contingente. Il prend une toute autre signification à partir du moment où c'est un jour de congé. Donc, c'est ça, ce sont les significations imaginaires qu'on rajoute au temps identitaire, hein, au repère du temps. Et il y a ça dans toute société. Hein, toute société a ses jours fastes et ses jours néfastes, hein, ses rituels liés à certaines dates. Donc ici, on peut mettre tout ce qui est des dates anniversaires qui célèbrent certains événements, dates anniversaires, les fêtes, et toutes les significations particulières, donc, qui sont liées à des activités, justement, à des activités qu'on fait à certains moments de l'année ou de la semaine ou de la journée. Hein, certaines activités de la journée aussi, puisque il y a une distinction naturelle entre le matin, le midi et le soir, une distinction tout à fait naturelle, mais quand on dit vivement ce soir, ça ne veut pas dire qu'on a envie de voir tomber la nuit. Ça veut dire qu'on a envie de faire les activités qu'on fait le soir. Hein. Donc là aussi, vous voyez, tout ça, c'est l'intrusion de l'imaginaire, puisque c'est on imagine ce qu'on pourra faire le soir. Le soir est lié à toute une série d'activités, de significations donc, qui sont parfaitement instituées. Hein. On pourrait tout à fait faire autre chose le soir que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc on a tout cet ensemble d'institutions explicites et dont on peut dire, en tout cas que dans notre société, elles sont parfaitement reconnues comme arbitraires et comme étant de notre propre création. Hein, on sait bien que c'est nous qui avons instauré tel jour comme jour de repos, que nous avons instauré telles activités plutôt pour le soir, telles autres plutôt pour la journée, et qu'on pourrait faire autrement. On sait bien que les dates anniversaires, ben, elles sont contingentes, hein, ça aurait pu être d'autres. Donc, on reconnaît, en tout cas dans notre société, et de manière assez répandue, le caractère imaginaire de ces significations-là. Mais à côté de cette temporalité explicite, il y a aussi une temporalité implicite. Il y a aussi une temporalité implicite de toutes les sociétés. Et qu'est-ce que c'est la temporalité implicite? Donc implicite, ça veut dire qu'elle n'est pas dite. Elle n'est pas dite, elle n'est pas déclarée, elle n'est pas représentée, et bien souvent elle n'est pas consciente. Et souvent elle n'est pas consciente. Cette temporalité implicite, c'est ce qu'il appelle aussi la temporalité effective de cette société. Effective pourquoi? Parce que c'est l'évolution qu'effectivement cette société se donne. C'est son histoire, en fait. C'est son histoire même. La temporalité effective d'une société, c'est son histoire. C'est la manière dont elle se transforme. Et on a vu aussi que toute société nécessairement se transforme. Même celles qu'on a appelées un moment anhistoriques, hein, dont on pensait qu'elles étaient parfaitement stables, on sait très bien qu'elles ne le sont pas parfaitement, qu'il y a toujours eu des transformations, soit par réaction à un événement naturel, soit par réaction à une rencontre d'un autre groupe, soit simplement parce qu'il y a de l'invention interne. Malgré qu'une société peut être extrêmement répressive de tout événement nouveau, hein, malgré qu'elle puisse être extrêmement attentive à ce que les individus ne fassent que répéter et ne fassent rien de nouveau, n'empêche que l'irruption du nouveau, elle est irréductible. Elle passe de toute façon partout. Donc on sait que toute société a une histoire. Mais cette histoire, cette temporalité, hein, ce développement, cet autodéveloppement de la société, qui est sa temporalité implicite, dont elle n'a pas nécessairement conscience,
Cette histoire, elle peut être lente ou rapide, selon les sociétés, et elle peut être chaotique ou régulière. Ça peut être un long fleuve tranquille, et ça peut être une suite de ruptures brutales, de révolutions, de transformations, de bouleversements, de renversements de l'ordre établi pour en établir un nouveau. Donc, vous reconnaissez là assez bien, en fait, soit des sociétés qu'on peut appeler, qu'on a appelées en fait archaïques ou anhistoriques, mais qui sont des sociétés, disons, à évolution lente et plutôt régulière. Et notre société, qui est une société à évolution rapide et à évolution chaotique. C'est-à-dire qu'on a une succession de ruptures très rapides, de révolutions très rapides dans notre histoire. Et justement, notre société, c'est là que j'en viens à l'illusion qui peut être liée à cette représentation qu'on a de notre temporalité. Dans notre société, on admet aussi que nous avons un type d'évolution rapide. C'est quelque chose qui est plutôt revendiqué, que nous changeons rapidement. Et je veux dire, c'est impossible à nier, de toute façon, quand on voit l'histoire des derniers millénaires. Mais on a une réticence à reconnaître que c'est une temporalité chaotique. Du moins, Castoriadis théorise cette idée. Après, il faudra qu'on y revienne et qu'on examine si on est d'accord avec lui. Mais du moins, il théorise le fait que notre société ne veut pas reconnaître qu'elle a une temporalité effective qui est irrégulière et qui est une suite de ruptures, parce que ça heurte, ça vient en opposition avec une partie de sa temporalité imaginaire. Donc notre société effective, donc, que je vais mettre ici, caractérisée par les ruptures, elle vient en opposition avec quelque chose, une part de notre imaginaire explicite, qui est le progrès continu. On retrouve l'idée de progrès, qui est le progrès continu. Et le progrès continu, il est lié à la fois à notre temps identitaire et à notre temps imaginaire. À notre temps identitaire, parce que notre temps identitaire, c'est le temps scientifique. Et le temps scientifique, c'est un flux homogène, continu, linéaire, irréversible. Donc, c'est un progrès continu, on peut dire, le temps. Il est homogène, il n'est pas caractérisé par des ruptures. Donc, le temps de la science. Et d'autre part, du côté de notre imaginaire explicite, on voudrait, ça fait partie de l'idéologie dominante, ça fait partie de tout ce qui est construit sur notre signification centrale, on voudrait que notre système soit le meilleur et le plus rationnel, précisément parce qu'il apporte toujours une amélioration de notre bien-être. Cette justification de notre système par le fait qu'il va constamment améliorer notre bien-être et le bien-être de tous sur toute la planète, c'est une croyance profonde en le progrès continu. Le progrès de la civilisation par la technique, par l'économie, par la croissance. On l'a tous entendu, cette idéologie. Je pense que ce côté-là n'est pas discutable. Alors, ce qui est peut-être un peu discutable, c'est deux petites choses dont aurait pu tenir compte Castoriadis, mais qui viennent seulement nuancer cette affirmation. Je pense que le cadre général y est, mais qu'on peut un peu nuancer en se disant, oui, mais tout de même, premièrement, le temps scientifique, est-ce qu'il est vraiment linéaire? Est-ce qu'il n'y a pas, justement, une mise en question de la manière dont on considère le temps comme un flux homogène? Et on sait bien, et Castoriadis le sait, parce qu'il utilise ça, il fait référence à ça à propos d'autres questions. Castoriadis est beaucoup intéressé à la physique et aux mathématiques, et il sait très bien que la relativité appliquée, y compris au temps, donc au début du XXe siècle, est quelque chose qui a profondément bouleversé notre vision du monde. Il sait l'importance que ça a, donc il aurait pu l'utiliser ici. Donc notre temps scientifique identitaire, il a été un petit peu mis en question par la découverte de la relativité, puisque en fait, on considère en physique que le temps n'est pas un flux homogène, donc unique pour tout l'univers, mais qu'en fait, il y a des temporalités relatives, c'est-à-dire que selon la vitesse d'un corps, son temps n'est pas le même que dans les autres endroits de l'univers. Donc le temps est relatif lui-même au lieu de l'univers et à la vitesse des corps. Bon, est-ce que ça change grand-chose par rapport à l'opposition qu'il y aurait entre, entre la conception scientifique du temps et notre temporalité effective constamment en rupture, je pense que ça ne change pas grand-chose, parce que le temps reste irréversible et il reste un continu. Donc si on veut qu'il y ait une adéquation entre le temps scientifique et notre temporalité effective, ce sera toujours la continuité et la régularité qui sera la caractéristique principale, qui sera ce qu'il y a de commun entre les deux. Pardon ? Alors il y a l'entropie qui pourrait être, vous voulez dire, une objection à l'irréversibilité du temps. C'est-à-dire le fait qu'on pourrait dire qu'il y a un... Puisqu'il y a une tendance de l'énergie globale de l'univers à diminuer, on pourrait dire qu'on verrait en quelque sorte la fin du temps dans une immobilité totale de l'univers, par exemple. Mais est-ce que ce serait la fin du temps, ou bien est-ce que ce serait la fin de l'univers sous cette forme-ci, le temps continuant, mais étant désormais le temps de l'immobile, ou le temps de ce qui surgira de cette immobilité, dont on ne sait pas, peut-être qu'il surgira une agitation quelconque à partir de cette immobilité. Donc, c'est vrai qu'il y a cette hypothèse, et c'est vrai que la physique en est réduite aux hypothèses. Pour tout ce qui est au-delà de... Enfin, pour tout ce qui va vers vraiment l'origine, ou qui va vers vraiment la fin de l'univers, si on en conçoit une, on est dans les hypothèses, mais c'est vrai que... Et c'est vrai qu'il faut distinguer à ce moment-là, encore une fois, le devenir et le temps. C'est pas la même chose. Donc, effectivement, le devenir pourrait se ralentir et s'épuiser. Et donc, on pourrait arriver éventuellement, pourquoi pas, à un univers immobile, mais ça n'arrêterait pas nécessairement le temps pour autant. C'est-à-dire, le temps mesurait toujours la durée d'existence de cet univers immobile. Donc, je pense que la physique continue, au fond, finalement, à concevoir le temps comme quelque chose de linéaire, de continu, et ne s'interrompant jamais, de ininterrompu. Alors, une deuxième manière pour laquelle on pourrait peut-être un tout petit peu nuancer ce schéma, et donc cette contradiction qui est la thèse de Castoriadis, qui est une contradiction entre notre explicite et notre implicite, c'est à propos de la justification par le progrès, la justification de la société par le progrès. Il est vrai qu'il y a de plus en plus de mise en question de la réalité du progrès. Il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent à ne plus pouvoir défendre cette idée que nous sommes en progrès continu et en extension du bien-être. Ça devient de plus en plus difficile à affirmer. Et donc, en fait, on assiste peut-être à une position de retranchement de la part de la société capitaliste où sa justification n'est plus la même. C'est-à-dire que, au lieu de se justifier par une pure hétéronomie, qui est notre système est basé sur la rationalité et sur le progrès, qui peut être prouvé par la science, ce qui est une pure hétéronomie, puisqu'on ne prétend pas que nous la choisissons justement parce que tel est notre choix, en fonction de nos valeurs, mais nous la justifions par une nécessité. Si on cherche le plus rationnel, c'est ça. Donc on passe de cette hétéronomie à une justification qui est en fait plus autonome. Et ça c'est intéressant, parce qu'on avance vers l'autonomie, mais peut-être pas dans le bon sens. Peut-être pas dans le sens d'un bénéfice pour notre imaginaire. Vous allez voir pourquoi. Dans cette position de retranchement, on va plutôt dire il est vrai que nous n'allons peut-être plus vers un progrès continu, il est vrai qu'il y a peut-être une stagnation du progrès, mais en tout cas, nous continuons à penser que ce système-ci est le meilleur, non pas parce qu'il est le plus rationnel, etc., mais tout simplement parce qu'il n'y en a pas d'autre. Ou plus exactement, parce que tout autre serait pire. Et donc, c'est pour ça que c'est un retranchement, c'est parce qu'on se retranche, on n'a plus comme autre possibilité que de dire « un autre choix serait pire ». C'est la fameuse expression de Thatcher « there is no alternative ». C'est pas qu'il n'y a pas d'alternative, il y en a, mais elle veut dire que tout autre choix serait pire. Si on change de système, nécessairement, ce sera la catastrophe. Et donc, cette position de retranchement, elle veut dire qu'on reconnaît notre autonomie. Ça veut dire que même Thatcher, elle reconnaît que ce système, c'est elle qui le porte, c'est elle qui le choisit, c'est elle qui l'institue. Il n'a pas de nécessité, il ne s'impose pas naturellement. C'est elle qui le veut et qui veut le maintenir. Elle reconnaît qu'elle veut le maintenir. Mais immédiatement, cette revendication d'autonomie est immédiatement refermée parce que c'est un choix qui n'est pas un vrai choix puisqu'il n'y a pas d'alternative. Immédiatement sont dénigrées toutes les autres possibilités de choix.
Donc évacué, éjecté, et donc il ne reste que celui-là, donc il s'impose tout de même, parce qu'il est le seul qui soit au moins, disons si pas le meilleur, du moins le moins pire, non, enfin le moins mauvais. Bon. Alors ça vient juste nuancer, mais je crois qu'on reste quand même globalement dans le même type d'illusion. On est vraiment dans l'illusion qu'on est dans le meilleur des systèmes, y compris donc du point de vue de toute cette... De ce que peut apporter à l'eau du moulin du système notre manière de nous rapporter au temps, hein, et au développement. J'en reviens de manière plus précise au relativisme culturel, et donc, après avoir de cette manière, je pense, bien acquis la certitude que pour Castoriadis, il n'y a aucune supériorité de notre imaginaire par rapport aux imaginaires des autres sociétés. Du moins, si on considère comme, dans notre imaginaire, ce qui est dominant, c'est-à-dire sa rationalité instrumentale. Il est bien clair que donc, les institutions, soit de la rationalité, soit d'un imaginaire au sens second, c'est-à-dire au sens de la fiction, hein, dans d'autres sociétés, sont de toute façon à égalité du point de vue de leur création par l'imaginaire radical. Hein, elles sont à égalité, ce sont aussi bien des formes qui sont instaurées, instituées par nous, enfin, par les êtres humains. Donc en ce sens-là, il n'y a pas de supériorité d'un par rapport à l'autre, il n'y en a pas un qui serait un type meilleur en soi, hein, ou qui préexisterait ou qui s'imposerait par une sorte de naturalité ou de transcendance. Bon, ça c'est admis. Enfin, pour nous, hein, je veux dire, au terme de ce qu'on a vu jusqu'ici. Et il est clair aussi que la distinction forte que nous faisons entre rationnel et imaginaire au sens de la fiction est une distinction que nous avons nous aussi instituée. C'est une distinction qui n'existe pas dans toutes les sociétés ou pas de manière aussi tranchée. Et ceci, justement, entraîne une certaine... non pas incompréhension, mais du moins une certaine difficulté d'échange avec les autres sociétés. Nous ne parlons pas la même langue que les autres sociétés, non pas au sens où on pourrait traduire évidemment d'une langue à l'autre, mais nous ne donnons pas la même signification aux notions. Si vous essayez de parler à quelqu'un d'une société vraiment radicalement autre, d'opposition entre rationnel et imaginaire, il ne va pas comprendre. Si vous lui demandez, par exemple, est-ce que les dieux dont vous parlez dans vos mythes, ils sont réels ou imaginaires ? Est-ce que vous croyez ce que vous racontez ou est-ce que vous le savez ? Il ne peut pas comprendre la différence, vous voyez ? Voilà, il y a des différences qui sont là aussi instituées par nous. Et donc ça, il faut le savoir, quand on compare notre culture, au sens large de culture, aux autres cultures. Donc la comparaison doit tenir compte du fait qu'on n'utilise pas les mêmes notions. On n'a pas posé même les mêmes distinctions de base. Et je vous cite encore un petit extrait de Castoriadis, c'est de la page 246. Donc, s'agissant de l'étude que nous pouvons, enfin des rapports, des comparaisons que nous pouvons essayer d'établir avec les autres sociétés, Castoriadis dit donc que nous ne pouvons pas faire semblant de nous placer dans la même situation imaginaire que les membres de ces autres sociétés. Nous ne pouvons pas abandonner totalement notre vision du monde et nos significations fondamentales pour adopter celle de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons tout simplement pas, enfin ce serait artificiel et ça ne marcherait pas. On ne serait pas convaincu. On ne peut pas faire semblant de croire si on ne croit pas, par exemple. Voici, on peut faire semblant, mais on ne peut pas se mettre dans la peau d'un croyant si on ne l'est pas, et probablement réciproquement. Et donc il dit ceci, l'ethnologue qui a tellement bien assimilé la vue du monde des Bororo, donc par exemple un ethnologue qui serait allé étudier les Bororo, qui a tellement bien assimilé donc leur vision du monde, qu'il ne peut plus le voir qu'à leur façon, n'est plus un ethnologue, c'est un Bororo. Et les Bororo ne sont pas des ethnologues. Donc si on a tellement bien compris la vision du monde de quelqu'un d'autre, c'est en quelque sorte qu'on est devenu autre. Et donc en fait, mais on ne peut jamais être entre les deux, et donc passer de l'un à l'autre, comprendre aussi bien l'un et l'autre, parce qu'on ne peut pas adhérer à deux systèmes opposés à la fois. Et il poursuit sa raison d'être, donc la raison d'être de l'ethnologue, n'est pas de s'assimiler aux Bororo, mais d'expliquer aux Parisiens, aux Londoniens, aux New-Yorkais de 1965, cette autre humanité que représentent les Bororo. Et cela, Il ne peut le faire que dans le langage, au sens le plus profond du terme, dans le système catégorial des Parisiens, des Londoniens, etc. Or, ces langages ne sont pas des codes équivalents. Et ce ne sont pas des codes équivalents, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une traduction automatique. Précisément parce que dans leur structuration, les significations imaginaires jouent un rôle central. Personne donc ne peut exprimer exactement comme quelqu'un d'une autre culture ce que sont ces significations imaginaires. Donc nous ne pouvons, mais justement c'est là que Castoriadis retourne ce qui pourrait être une limite, un défaut, il le retourne en avantage. Il dit, mais nous ne pouvons en fait considérer les autres sociétés que par rapport à nous et dans la mesure où ça nous intéresse nous. Mais justement, il s'empare de cette nécessité comme faisant partie de son propre projet, comme venant confirmer son propre projet. Parce qu'après tout, son projet, c'est quoi? Son projet, c'est, il le rappelle, de modifier sa propre société. Son projet, c'est d'agir, de transformer. Et donc, à ce moment-là, quand il étudie les autres sociétés, c'est aussi pour mieux se donner les moyens intellectuels de transformer sa propre société. Il le présente comme ceci. L'histoire, mais ce n'est pas seulement l'histoire au sens d'étude des sociétés anciennes, c'est aussi, au sens plus large, la connaissance de toutes les sociétés autres, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient simplement géographiquement éloignées. C'est la même chose. Donc, l'histoire est toujours histoire pour nous. Ce qui ne veut pas dire que nous avons le droit de l'estropier comme il nous chante, ni de la soumettre naïvement à nos projections, hein, à nos projections, c'est-à-dire en l'interprétant selon nos catégories, hein, pour des choses qui n'existaient pas encore à l'époque. Puisque précisément, ce qui nous intéresse dans l'histoire, c'est notre altérité authentique, les autres possibles de l'homme dans leur singularité absolue. Donc la découverte de l'altérité, de la diversité des créations sociales, c'est précisément ce que vient confirmer la thèse de Castoriadis. C'est précisément ça qu'il veut utiliser comme appui pour sa thèse. Le fait donc qu'il n'y a pas de préférence ni de valeur qui soit universelle. On découvre, grâce à l'histoire ou à l'étude des autres sociétés, à l'enquête sur les autres, à quel point la diversité est profonde, est profondément enracinée, est enracinée jusque dans les significations les plus ultimes. On le découvre aussi par cette difficulté de compréhension mutuelle, de compréhension des notions par lesquelles les autres vivent et respirent constamment. Et d'autre part, donc cette histoire, elle est pour nous, et les valeurs aussi, on va le voir, sont pour nous, de la même façon. Donc, d'autre part, connaître la diversité nous intéresse pour notre projet pratique, parce que ça nous révèle, ça nous permet de mettre en question plus facilement les institutions qui nous sont restées jusqu'ici inconscientes. C'est-à-dire, en nous confrontant avec d'autres, nous voyons tout l'arbitraire de notre propre organisation. Et évidemment, en allant le plus loin possible, nous pouvons essayer de retrouver ce que nous voyons, l'équivalent de ces significations centrales que nous pouvons voir plus facilement chez les autres que chez nous. Donc plus on les connaît, plus aussi on fait avancer notre projet pratique, qui est un projet de désaliénation par rapport à nos propres significations instituées. Nos propres significations qui sont tellement imaginaires qu'elles sont inconscientes, hein, qui sont tellement radicales qu'elles sont inconscientes. Hein, donc la diversité, la découverte de la diversité et donc de toute cette altérité irréductible des autres nous permet de faire avancer notre projet pratique, de déconstruire, de prendre conscience de ce qui chez nous est institué et risque de se scléroser. Hein, donc, et par là, nous pouvons nous reprendre comme pouvoir instituant, par opposition à ce pouvoir institué, hein, donc au sens de fixer. Nous pouvons relancer le processus de création chez nous grâce à ce que nous découvrons chez les autres. Alors, ça ne veut pas dire que nous allons nécessairement puiser ailleurs des alternatives que nous pourrions réaliser pour améliorer, pour transformer notre société. Mais nous sommes ouverts à d'autres possibles. Hein, ce mot de possible est absolument essentiel. Il faut justement savoir qu'il y a d'autres alternatives, qu'il y a d'autres mondes possibles, qu'il y a d'autres manières de se rapporter au monde qui sont possibles. Ça, c'est extrêmement important. C'est de retrouver le sens du possible. Et ce possible peut avoir été déjà réalisé ou non, peu importe. Donc, non seulement le passé nous fournit des exemples, mais l'imagination de ce que peut être le futur nous fournit aussi des exemples. Donc, voilà comment le possible peut relancer le processus créateur. Donc, nous avons vu que notre société n'a aucune raison de se sentir supérieure aux autres et que sa rationalité dominante est en réalité une pseudo-rationalité et une hétéronomie, puisqu'elle est en fait ignorante d'elle-même, ignorante de ses conditions, ignorante de ses conséquences. Cependant, nous avons peut-être deux avantages par rapport à d'autres sociétés, deux avantages pour pouvoir réaliser notre autonomie. Le premier, c'est que l'autonomie a déjà eu lieu dans notre culture, et elle fait désormais partie de notre histoire. Elle a eu lieu dans notre culture. Il y a eu des moments sur lesquels il s'étend pendant tout de même assez bien pour exprimer comment ça s'est passé, quelles ont été ses conditions, et surtout quelle en a été la conséquence effective pour la vie des gens. Donc il y a eu des moments où l'autonomie a été réalisée, c'est-à-dire où un peuple tout entier s'est dit « c'est nous qui décidons » et « nous », ça veut dire « chacun de nous ». Donc voilà un revenu, la liaison entre autonomie et démocratie radicale, démocratie participative. Donc un avantage, c'est que nous l'avons dans notre propre histoire, il ne faut pas que ça vienne de l'extérieur, l'idée d'autonomie. Un deuxième avantage, c'est que nous avons développé aussi dans notre propre culture cet intérêt, cette vision intéressée, cette étude intéressée des autres sociétés, ce qui est assez rarement le cas chez les autres. Cet intérêt précisément ethnologique, anthropologique, ce fait de vouloir découvrir l'altérité, c'est quelque chose donc qui peut nous permettre de nous mettre en question plus facilement. Donc ça, ce sont deux avantages. Mais ce sont des avantages, dit Castoriadis, qui sont tout à fait contingents, qui en d'aucune manière ne forment une fondation pour notre choix d'autonomie. Ça ne justifie pas notre désir d'autonomie, si vous voulez. Donc à partir du moment où on valorise l'autonomie, on peut dire que ce sont des avantages, puisque ça nous aidera à l'atteindre. Mais ça, d'aucune manière, ces deux avantages historiques, contingents, d'aucune manière, n'expliquent pourquoi nous faisons ce choix de l'autonomie. Pourquoi nous voulons, pourquoi nous avons ce désir-là plutôt que le désir d'hétéronomie. Donc c'est seulement a posteriori, quand on a fait ce choix, qu'on peut le défendre en lui attribuant une valeur. Et là, on en vient donc justement à la valorisation de certaines sociétés, types de sociétés par rapport à d'autres. Castoriadis dit ceci, non pas dans l'institution imaginaire de la société, mais dans un de ses derniers livres qui s'appelle « Figure du pensable ». « Figure du pensable », c'est le cinquième tome des « Carrefours du labyrinthe ». Il dit ceci, « Une société autonome affirmera que l'autonomie sociale vaut, a de la valeur. Certes, elle pourra justifier en aval, donc dans ses conséquences, son existence, par ses œuvres, parmi lesquelles le type anthropologique d'individu autonome qu'elle créera. Donc elle pourra dire, voilà, la conséquence de l'institution autonome, c'est qu'on a des hommes qui sont plus libres, plus créatifs, on a des hommes qui sont plus égaux, plus participants, etc. Donc on peut le justifier par les œuvres, en disant, voilà, des conséquences positives de l'autonomie sociale. Mais l'évaluation positive de ces œuvres dépendra encore de ses critères propres. Peut-être que cette évaluation ne sera pas positive pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, quelqu'un d'une autre société pourra dire « Mais nous ne voulons pas que les individus soient libres, créateurs et tout ce que vous évaluez positivement. » Donc, l'évaluation dépend toujours de ses propres critères. Plus généralement, des significations imaginaires sociales qu'elle a elle-même instituées. Cela pour rappeler qu'à la fin des fins, aucune société ne peut trouver sa justification en dehors d'elle-même. On ne peut pas sortir du cercle. Ça, c'est vraiment une déclaration importante et qui répond, comme je l'avais annoncé au début, qui répond à certains reproches qui ont été faits à Castoriadis, de vouloir placer une valeur universelle au-dessus de toutes les sociétés et les juger à l'aune de cette valeur qui serait unique pour toutes. Donc de vouloir, si vous voulez, universaliser ce qui est une valeur particulière de notre société. Mais ceci répond à cela, justement, empêche cette conclusion. Puisque Castoriadis dit bien, j'assume parfaitement le fait que, y compris la valeur que je prône le plus, moi, l'autonomie, est ma valeur particulière, elle n'est pas universelle et elle n'a pas à le devenir. Ça, c'est important. Il ne prône pas une universalisation. Il suggère simplement que chacun puisse choisir, mais que chacun puisse choisir en connaissance de cause, évidemment. C'est-à-dire qu'une fois différentes réalisations effectives dans le monde, et que chacun puisse les constater, eh bien, ça donnera à chacun la possibilité de choisir. Et chacun choisira en fonction de, de sa propre histoire. Alors, encore une fois, n'oubliez pas que pour Castoriadis, l'histoire n'est jamais totalement déterminante. Hein? Aucune société, même si elle est évidemment très dépendante de son développement historique, aucune société n'est complètement liée par ces événements historiques. Elle peut toujours décider autrement que sa tradition. Donc ça, c'est vraiment sa thèse, qui a une liberté créatrice. Sinon, on est dans le déterminisme et il n'y a plus qu'à faire de la sociologie comme on fait de la chimie. Hein. Ça ne serait pas différent. Donc ça, évidemment, c'est une thèse fondamentale pour lui. Donc il n'existe pas de critère absolu. Il n'y a pas de point de vue qui serait situé hors d'une représentation instituée. Il n'y a pas de point de vue absolu, de point de vue général, hein, de point de vue hors société, par lequel on pourrait comparer, juger toutes les sociétés et dire laquelle vaut mieux, les classer selon des valeurs. Il n'y a pas une valeur. Et ça, il le dit très clairement. Il ne va pas prétendre le contraire. Et cependant, il y a une affirmation de relativisme, hein, c'est certain. Ça, c'est l'affirmation du relativisme culturel. Cependant, du fait même que tout point de vue est nécessairement situé, de ce fait même, il est impossible de dire aussi « tout se vaut, tout est égal ». Donc le relativisme culturel ne doit pas déboucher sur l'affirmation « tout se vaut ». Ça, c'est tout aussi faux. Ça voudrait dire tout aussi bien comme si on avait un point de vue extérieur et qu'on regardait tout d'en haut et on disait bah, « c'est tout pareil ». Enfin, voilà. Non, ça serait aussi, c'est tout aussi faux. En fait, on ne peut pas dire tout se vaut parce que chacun est obligé de choisir. Nous sommes contraints au choix, sinon nous ne faisons rien. Toute activité, tout développement, même le plus simple, nécessite un choix. Il faut choisir, toute société doit choisir, elle doit instituer des significations premières. Elle doit se donner des buts, des choses qu'elle privilège, des choses qu'elle déconseille, etc. C'est obligatoire. Mais ce sera relatif à chacun, ce sera nécessairement relatif à chacun. Et donc, il est normal aussi que toute société considère ses choix comme les meilleurs. Sinon, elle ne choisirait pas ça, sinon elle choisirait autre chose si elle ne le considère pas comme le meilleur. Et il se peut qu'elle choisisse quelque chose qui lui vient d'ailleurs, qu'elle a observé chez d'autres. Dans ce cas, elle l'adopte parce qu'elle le considère comme meilleur que ce qu'elle avait jusque-là. Mais toujours, le choix, c'est le choix du meilleur. Ou alors, on est vraiment autodestructeur si on ne choisit pas ce qui nous paraît le meilleur pour nous. Hein. Donc, par définition, toute société valorise ses valeurs, non ? Par définition, il est impossible qu'une société ne valorise pas ses propres institutions. Comment est-ce qu'elle pourrait ne pas le faire ? Sinon, elle en choisirait d'autres. Donc ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'on ne peut même pas affirmer le contraire. Hein. Ni de la note, ni d'aucune. Et donc voilà, on en est arrivé à assumer totalement un certain relativisme culturel qui est « il n'y a de valeur que relative à chaque société, il n'y a aucune valeur absolue universelle ». Et pourtant, et c'est avec ça que je vais terminer, j'ai une dernière chose à vous dire, et qui n'est pas de Castoriadis mais qui est à son propos, c'est « est-ce qu'il n'y a pas tout de même une prétention à l'universalité quelque part chez Castoriadis ?» Mais qui n'est pas là où on la cherche d'habitude quand on lui cherche des poux, hein, c'est-à-dire sur le fait qu'il imposerait le type de rationalité, etc. Non, c'est pas là. En fait, ça ne concerne pas les valeurs ni les choix pratiques. Ça concerne la vérité théorique. La vérité théorique. Ça concerne sa théorie. Et en fait, donc, c'est plutôt du ressort de la philosophie que du choix pratique politique. En effet, la thèse de l'imaginaire radical sur laquelle repose son ouvrage, c'est que l'imaginaire radical est une faculté qui appartient à toute l'espèce humaine et que donc toute l'espèce humaine est créatrice de ses propres institutions. Et ça, Castoriadis l'affirme comme une thèse théorique, hein, mais qui pour lui est la vérité des sociétés. Pour lui, c'est la vraie compréhension d'une société, c'est ça. C'est qu'elle a un imaginaire radical, etc. Et c'est le cas universellement. Donc il y a bien une affirmation universelle d'une certaine vérité à propos des sociétés. Cette thèse, donc, il pense que c'est vraiment ça qui explique l'homme universellement. Et donc, les thèses opposées, celles qui expliquent l'homme et les sociétés par l'intervention, par exemple, d'une volonté divine, hein, ou d'une histoire mythologique, elles sont fausses pour lui. Elles sont fausses pour lui, forcément. Elles ne peuvent pas être vraies. Alors, même s'il sait, hein, bon, on peut dire, même s'il sait que une thèse est toujours une thèse et qu'il n'a pas moyen d'avoir une démonstration absolue de cette thèse, même s'il sait qu'il n'y en a pas de possibilité, néanmoins, pour lui, c'est ça qui est le plus vrai, du moins le plus vraisemblable de toutes les thèses qu'on peut avoir théoriquement sur les sociétés. Et donc, par conséquent, les sociétés qui se rendent compte de ça, qui prennent conscience de ça, du fait que leur vérité, c'est leur imaginaire radical, elles sont plus lucides sur elles-mêmes que les sociétés qui ne s'en rendent pas compte ou qui refusent de l'accepter. Et donc, il y a bien par ce biais, si vous voulez, une valorisation, hein, par le biais de la théorie de la vérité, il y a bien une valorisation des sociétés qui adoptent ce type de vérité. Et donc là, ce serait le privilège de notre société, ce serait le véritable privilège d'après Castoriadis de notre société, le fait de pouvoir atteindre la vérité par une méthode scientifique, parce que ça reste une méthode de type scientifique, hein, c'est une investigation dans la psychologie humaine, dans l'histoire, qui est l'histoire étant scientifique, hein, par une série de méthodes de vérification, de documentation, etc. Donc c'est par toute une série de méthodes et de disciplines scientifiques que Castoriadis essaye d'appuyer sa thèse. Et donc, le privilège de notre société, c'est d'avoir justement développé ce type d'enquête scientifique. Et donc, de se dire qu'elle peut atteindre une vérité. Alors, il est vrai que dans notre société aussi, le doute a été émis très très tôt sur la possibilité d'atteindre une vérité. Et même le doute sur le fait même qu'il existe une vérité. Je vous renvoie à des scepticismes philosophiques qui sont apparus dès l'Antiquité grecque. Des scepticismes très radicaux, parfois. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de monde extérieur, tout n'est qu'une illusion d'un seul esprit, etc., etc. Bon, tout ça apparaît très très tôt dans l'humanité. Donc, enfin, dans l'humanité, mais c'est dans notre culture, justement, aussi. Alors, Castoriadis n'est pas un sceptique. Castoriadis n'est pas un sceptique, et donc il pense qu'il y a une vérité, du moins dans l'histoire. C'est-à-dire que les choses se sont passées d'une certaine façon et pas d'une autre. On ne peut pas dire, je ne sais pas, en fait, si dire que Louis XIV a existé est plus vrai que dire que Louis XIV n'a pas existé. Ça, ce serait une sorte de scepticisme, hein, appliqué à l'histoire et appliqué à la vérité, à une vérité possible dans l'histoire. Castoriadis trouve ça absurde, comme beaucoup, hein, ont essayé de répondre quand même au scepticisme radical en disant que ça menait à des conclusions absurdes, mais on peut répondre par des arguments, hein, mais ça, je ne vais pas le faire ici. Castoriadis, il dirait bah, évidemment que l'histoire peut reconstituer le fait qu'il y a bien eu quelqu'un qui s'est appelé Louis XIV, qui a régné, qui a fait telle et telle chose, voilà, même si après on peut discuter sur des détails. Donc les faits passés, ils ont une vérité. Au minimum, il y a cette vérité-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a une vérité nécessairement, comment dire, c'est une vérité qui est autre que la vérité, par exemple, des mathématiques, des vérités universelles du type le théorème de Pythagore, etc., qu'on donne comme exemple en général d'une vérité qui est censée traverser tous les temps et tous les lieux, hein, être aussi vraie partout dans tous les temps et à toutes les époques et toujours. Bon, c'est pas du même type, c'est une vérité contingente. Hein, la vérité historique, c'est une vérité contingente, c'est-à-dire les choses auraient pu se passer d'une autre façon. C'est une vérité qui n'est pas liée à une nécessité. La vérité n'est pas toujours liée à la nécessité, ni au fait d'être éternelle, etc. Il faut distinguer différents types de vérités. Donc celle-là, du moins, il la reconnaît. Et d'autre part, Castoriadis, n'étant pas un sceptique, affirme aussi que nous pouvons avoir accès à ce type de vérité-là. Nous pouvons avoir accès, justement, par ces méthodes que nous avons développées. Donc, nous sommes ici face à une sorte de choix ultime, mais qui n'est plus un choix pratique, qui est un choix théorique ou philosophique. Est-ce que nous choisissons qu'il y a une vérité, que nous pouvons l'atteindre par une série de méthodes, et que donc nous pouvons dire qu'une représentation du monde est plus vraie qu'une autre? Est-ce que oui ou non nous acceptons ça ou pas? Ça, c'est un choix philosophique. Et donc là-dessus, ben, je n'en dirai pas plus, parce que je pense que c'est un tout autre discours, mais il faut savoir que ce sont des présupposés de Castoriadis. Voilà. Et donc, je m'arrête là pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, je vous proposerai de revenir au rapport entre l'individu et le groupe, au sens de savoir comment est-ce qu'un individu influence son groupe, Hein, et donc, comment est-ce qu'on peut faire avancer, éventuellement en étant une minorité, comment on peut faire avancer toute une société en étant une minorité? Le micro pour vous. C'est Jeanne.
Qu'est-ce qui forme le désir d'autonomie? Vous avez parlé, mais vous n'avez pas développé. Et puis vous avez aussi dit que les individus autonomes étaient là.
Alors, je voulais savoir, parce que vous en avez parlé, mais vous ne l'avez pas expliqué, qu'est-ce qui fonde pour vous, pour Castoriadis, le désir d'autonomie? Et puis, vous avez parlé de conséquences de l'autonomie des sociétés en disant que ça crée des individus autonomes. Alors, moi, je voulais savoir si c'est la conséquence ou la cause. Donc, je crois que c'est ce que vous allez peut-être développer. Voilà.
Alors, décidément, sans vous, il y a que vous. Merci. Donc, effectivement, quant à la deuxième question, ça c'est typiquement ce que je vais aborder la semaine prochaine. Donc, comment justement comprendre cette dialectique, on pourrait dire, hein, je veux dire, cette difficile jeu de lequel vient avant.
Parce que ça change tout.
Absolument. Et donc là, ça je vais approfondir la semaine prochaine. Et sinon, pour la première question, donc qu'est-ce qui fonde le désir d'autonomie? Justement, Castoriadis, il revendique le fait qu'il n'y a pas de fondement à ce désir. Il n'y a pas de fondement à ce désir. Il dit qu'il y en a des conditions, c'est-à-dire des conditions de possibilité. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'effectivement, on pourrait faire la fiction, hein, imaginer que Castoriadis soit né chez les Bororo, justement, et est-ce qu'il aurait eu le désir d'autonomie? Je pense qu'il dirait que probablement pas. Hein, que probablement pas. Donc il y a des conditions historiques quand même, il faut une certaine culture, d'ailleurs ça entame la deuxième question, il faut une certaine culture pour que ça vienne. Mais toujours avec cette idée qu'il n'y a pas de nécessité absolue. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on est dans une certaine culture qu'on l'aura, et c'est pas parce qu'on est dans une culture où il n'existe pas qu'on ne l'aura pas, puisqu'il y a bien un moment où ça doit surgir. Alors d'autre part, il s'agit bien d'un désir, et il insiste bien là-dessus, il s'agit bien d'un désir. C'est-à-dire que Castoriadis revendique aussi le fait qu'on peut réaliser ses désirs, que des désirs c'est fait pour être réalisé justement. Des désirs c'est des projets pratiques. Et même si ça n'a pas de justification ultime ou absolue ou reconnue par tout le monde justement, on peut les affirmer comme des désirs et vouloir les réaliser. Donc même si par exemple ce désir n'est pas partagé par tout le monde, eh bien il n'y a pas besoin qu'il le soit pour pouvoir le réaliser. Et d'ailleurs, encore une fois, ça rejoint l'idée qu'il n'y a pas besoin d'une homogénéisation des sociétés, des cultures. Il suffit qu'on se regroupe avec ceux qui ont le même désir et qu'on le construise collectivement. Il n'y a pas besoin que ce soit reconnu universellement. Donc il n'y a pas besoin de passer par une fondation, hein, qui serait nécessairement une forme d'universel. Il n'y en a pas besoin. C'est un désir. Du moment qu'on se reconnaît avec d'autres qui ont le même désir, on peut le fonder ensemble. On peut le réaliser ensemble.
Justement, tu as mentionné qu'il y avait eu des exemples d'autonomisation de sociétés, de sociétés qui s'étaient autonomisées, mais quels sont les exemples que cite Castoriadis?
Alors bon, je peux m'étendre un tout petit peu plus dans la Grèce, sur la Grèce antique, hein, c'est enfin, sauf si ça ennuie quelqu'un, mais ouais. C'est vrai que, bon, ça a été pas mal étudié, les conditions de possibilité de l'avènement, donc, de la démocratie et de la philosophie. Pourquoi la démocratie et la philosophie? Parce que ce sont les deux aspects, aspect pratique et aspect théorique, de l'autonomisation. Ce sont les deux aspects qui sont en fait corollaires d'une mise en question de ce qu'il y avait avant. Dans les deux cas, la condition d'une autonomisation, c'est la mise en question de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire le fait que désormais, on le refuse. Et c'est pour ça que je disais que l'esprit scientifique, l'attitude scientifique devant le monde, à l'époque, scientifique ou philosophique, c'est la même chose, l'esprit scientifique, il est apparu de manière consciente et volontaire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les gens se sont dit, on n'est plus satisfait des discours qu'on entend, et donc on veut les changer, on a le désir d'autre chose. Et la même chose en politique, on n'est plus satisfait d'aucun des régimes existants, et donc on veut changer et on a le désir d'une participation de tous, égalitaire, aux affaires publiques. Alors, c'est très important de bien comprendre qu'on ne pourra jamais dire quels ont été les facteurs totalement déterminants pour expliquer cette apparition. Pourquoi elle a eu lieu là et pourquoi elle n'a pas eu lieu ailleurs. Alors, pourquoi à ce moment-là, pourquoi pas à un autre moment. On peut donner, encore une fois, une série de conditions de possibilité qui devaient être réunies pour que ça se passe. Alors, on en a donné toute une série. Je pense que le premier théoricien qui a vraiment mis ça en évidence, c'est Jean-Pierre Vernant. Vous connaissez peut-être son livre... Comment il s'appelle son livre Bon, ça m'échappe pour le moment, le titre du livre. Mais c'est la thèse de Vernant que... de mettre en évidence toute une série de facteurs sociétaux, historiques, qui ont fait que un imaginaire nouveau a pu apparaître à ce moment-là en Grèce. Bon, on va finir par abandonner la technique, non? Alors que dire d'autre? Cette remise en question du point de vue politique, c'était vraiment un doute émis sur les justifications qu'avaient tous les autres régimes pour défendre leur oligarchie. Donc peu importe qu'on ait d'ailleurs une monarchie au sens strict ou une oligarchie ou une aristocratie. Donc de toute façon, c'était une manière de refuser la légitimation du fait qu'un certain groupe de personnes avait le pouvoir et pas les autres. Ces différentes légitimations, ça pouvait être l'hérédité, on descendait de telle famille et pas de telle autre, ou bien la richesse, ou bien une victoire militaire, ce genre de justification. Ils ont trouvé qu'elles étaient toutes mauvaises. Et ils ont dit la seule justification pour participer à la politique, c'est d'être un homme libre. C'était la justification de la démocratie. C'est la seule exigence. Comment ça leur est venu? Eh bien, très probablement, une condition essentielle a été la confrontation. La confrontation avec l'altérité. Donc ça, c'est ce qu'on a vu aussi aujourd'hui. La confrontation avec l'altérité, c'est absolument indispensable. C'est-à-dire, en particulier Athènes, mais la plupart des cités grecques, c'était des cités commerçantes, ouvertes sur la mer, ouvertes sur des civilisations assez différentes, comme la civilisation phénicienne ou égyptienne, etc. Donc, qui voyaient très bien les différences. C'est une civilisation aussi qui a connu énormément de conflits entre cités et de conflits sociaux à l'intérieur même des cités. Donc, il y a eu de la contestation tout de suite. Et donc, c'est une société qui n'a pas un horizon limité à un seul modèle ou à un nombre très restreint de modèles. C'est une civilisation qui, d'emblée, a eu une multiplicité de modèles. Et plus cette multiplicité a augmenté, plus il devenait facile d'avoir une revendication nouvelle. Voilà. Donc ça, c'est une des conditions. Alors, il y a aussi des conditions d'échanges économiques, donc de situation économique, une certaine prospérité, des conditions de langue, c'est-à-dire on lit aussi l'apparition de la démocratie à l'apparition de l'écriture alphabétique qui permet la publicité des lois, la publicité de toutes les décisions, le fait qu'on les écrive et tout le monde les connaît. On écrivait sur des pierres, sur les murs, tout devait être connu de tous pour que tous puissent décider. Donc déjà, ça c'est aussi une condition, encore une fois, nécessaire mais pas suffisante. D'autres civilisations ont eu l'écriture et n'ont pas créé la démocratie. Donc, c'est jamais suffisant. C'est ça, ça fait partie de la thèse, que ce ne soit pas suffisant, donc qu'il y ait quelque part quand même un geste de liberté.
Mais je ne comprends pas une chose. Comment, dans la logique de Castoriadis, une cité grecque esclavagiste et religieuse peut être un exemple d'autonomie? J'arrive pas bien à le ressentir.
Alors, ce sont deux choses assez différentes. D'une part, la religion grecque, c'est une religion qui s'est ritualisée et affaiblie au cours des siècles. C'est-à-dire que un grec du 5e siècle, alors là, c'est une hypothèse que je fais, mais j'ai beaucoup étudié les textes des grecs de cette époque, et je peux vous dire qu'à mon avis, ils ne croyaient plus en leur dieu. ils ne croyaient plus à la mythologie. Ils ne croyaient pas qu'il y avait eu toutes ces péripéties avec leur panthéon, etc. Je crois qu'ils n'y croyaient pas. Mais la religion était conservée comme, justement, en tant que rituel, en tant que fête, repère, signification imaginaire autour de certains moments importants, autour de, ou pour ritualiser certains événements publics qu'on jugeait importants. Mais donc tout ça donnait un aspect formel, solennel, à des événements qui étaient d'autre part des événements autonomes, donc des décisions, enfin des institutions autonomes. Donc pour la religion, je pense que c'est par là qu'on doit répondre, qu'ils n'étaient plus, dépendants en fait de leur Dieu. Alors d'autre part, on peut dire aussi que cette religion, même au temps où elle était une vraie foi, même s'il y a eu un temps où il y a eu une vraie foi en ce panthéon, ce n'est pas une religion qui prétend, enfin ce n'est pas une société qui se prétend créée par les dieux et qui prétend que tout est commandé par décret divin. Donc il n'a jamais été question dans la religion grecque du fait que les sociétés humaines doivent se conformer à un modèle donné par les dieux. Donc il y a toujours d'ailleurs il y a toujours une diversité, même pour des peuples qui ont la même religion, une diversité d'organisation. Donc ce n'est pas une religion qui est hétéronome pour la politique. Elle n'impose pas de forme sociale et politique. Donc ça c'est aussi un élément qui a été avancé par Vernon d'ailleurs, cette grande liberté en fait de la religion grecque, liberté aussi bien mythologique puisqu'on pouvait ajouter tout ce qu'on voulait comme histoire, que liberté rituelle hein, puisqu'on pouvait ajouter des rituels selon qu'on a intégré des nouveaux dieux, etc. Donc c'est une religion qui est peu contraignante et peu hétéronome en somme. Alors pour ce qui est de l'esclavage, donc comme je l'ai dit, la seule exigence, le seul titre pour participer à la démocratie, donc pour être citoyen, c'est d'être un homme libre. Et donc précisément, dans cette déclaration, même dans cette définition même de la démocratie, il y a l'exclusion des esclaves. Comment est-ce qu'on peut... Alors on va revenir encore une fois hein, la nécessité pour une société autonome que chacun de ses membres soit lui-même autonome, ce qui est évidemment transgressé par ce modèle-là. Mais eux ne considéraient pas les esclaves justement comme des membres de cette société. À l'inverse des sociétés oligarchiques comme la nôtre, où nous sommes censés être des membres de cette société, et cependant nous ne participons pas au pouvoir instituant. Donc on ne dit pas que nous ne sommes pas membres de cette société. On dit que nous en sommes membres, mais nous ne sommes pas des membres décideurs. Alors là, ils étaient au moins, je dirais, plus cohérents dans la définition. Tout qui était considéré comme membre de cette société était un décideur. Donc en ce sens, on dit bien, tous les membres de la société participent au pouvoir instituant et à l'autonomie, par conséquent, des institutions sociales. Maintenant, comment est-ce qu'on pouvait considérer des gens qui vivent sur le même territoire comme n'étant pas membres de cette société? Et c'est là que, je pense, la réponse passe par l'ancrage historique de l'esclavage. L'esclavage, c'est une donnée que les cités grecques, au moment où elles ont fait leur transition démocratique, avaient hérité depuis longtemps, et qu'elles n'étaient pas les seules. Je veux dire, l'esclavage était dans toutes les sociétés. Donc là, il n'y avait même pas d'altérité, si vous voulez, pour dire... pour alerter sur le fait que c'était une institution contingente, peut-être même minoritaire, étrange, et qu'il faudrait changer. Donc, il y a un ancrage historique. Alors, il y a eu des mises en question de l'esclavage. Il y en a eu, donc, de la part d'orateurs, de la part d'hommes politiques, de la part de philosophes, il y a eu des mises en question de l'esclavage, qui n'ont pas suffi à le faire supprimer. Et la démocratie ne l'a pas supprimé, il est vrai. Ces mises en question ont permis en tout cas de distinguer différents types de justification de l'esclavage. Par exemple, je crois que je l'ai déjà dit à une séance précédente, en l'an 600 environ avant notre ère, Solon a interdit l'esclavage pour dette. C'est-à-dire qu'il a interdit que donc, un homme libre, un citoyen, perde toutes ses qualités d'homme libre simplement pour une question d'argent. Donc il a interdit qu'un citoyen devienne esclave de cette manière-là. Qu'est-ce qui restait comme origine de l'esclavage? Il restait le fait qu'on soit né d'esclave, donc ça remonte alors à un esclavage plus ancien, soit par prise de guerre, soit par rapt, puisqu'il y avait des pirates qui écumaient les côtes, qui ravissaient des gens, ou des enlèvements de toutes sortes. Et puis, si on enlevait quelqu'un, on allait sur un marché, on ne vous demandait pas la traçabilité d'où il venait, s'il avait été vivant. Et donc, on pouvait le vendre. Et ça, c'était l'origine des esclaves. Et il y a... mais ceci dit, c'était... Alors, c'est une... L'esclavage par prise de guerre et par enlèvement se raréfie aussi lors de ces siècles, disons à partir du 7e siècle, quand commencent à venir les revendications démocratiques. Ça diminue parce que... alors, attendez, je retrouve la logique. La première mise en question, ça a été le fait de mettre des Grecs en esclavage. Donc l'idée justement que si ce sont des Grecs, même d'autres cités, il n'y a pas de raison qu'ils soient esclaves. Et on voit là, on voit que la relation à Homère, par exemple, est une relation d'une certaine mécompréhension. C'est-à-dire qu'à l'époque classique, ce qu'on lit dans l'épopée homérique, c'est-à-dire que toutes les femmes de Troie sont emportées en esclavage, etc., donc ce qu'on lit là est devenu impossible à l'époque classique. Quand il y a eu la guerre du Péloponnèse ou d'autres guerres intercités qui étaient fréquentes, on ne prenait pas toutes les femmes pour les mettre en esclavage. C'était quelque chose qui était fini, on ne faisait plus ça. Et on sent que là, ils étaient conscients de leur évolution par rapport à l'époque homérique. On pourrait prendre encore en esclavage des non-grecs. Ça a dû arriver lors des guerres médiques, par exemple. Et à ce moment-là, on considère qu'ils ne sont pas citoyens parce qu'ils ne sont pas de la même culture. Ils n'ont pas notre culture qui nous permet à nous d'avoir cette autoréflexion, d'avoir cette clarification sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons, etc. Donc, il y a une sorte de justification par la différence culturelle. Et donc, voilà pourquoi on peut dire mettre des limites à la citoyenneté. C'est le même type de justification que pour ce qu'on appelle les métèques. Voilà, le droit de vote des immigrés à l'époque actuelle. Alors, il y a une autre justification pour les nouveaux arrivants, les gens qui viennent d'arriver. On peut dire il faut quand même qu'ils s'installent, qu'ils soient un peu au courant de ce qui se passe. Donc, il faut un temps de transition, qu'ils s'installent pour un certain temps, c'est-à-dire qu'ils aient un véritable intérêt au bien-être de la cité, parce qu'ils vont s'installer pour un certain temps. Donc, qu'on mette, par exemple, le droit de vote au bout de 5 ans de résidence, c'est assez rationnel par rapport au fait que, justement, l'autonomie suppose qu'on participe à tout, qu'on participe à toutes les décisions, donc il faut quand même qu'on soit au courant et qu'on se sente concerné. Donc, ça, c'est... Par contre, c'est différent pour des immigrants de longue date qui sont destinés à rester longtemps. Là, il y a petit à petit, il y a justement assimilation culturelle suffisante pour qu'on les considère désormais comme des citoyens. Il n'y aurait aucune raison de leur refuser ça. Et d'ailleurs, on constate à ce moment-là, au cours du 5e siècle, qu'il y a eu des fluctuations de la loi en fonction du nombre total de citoyens de la cité. C'est-à-dire qu'à certains moments, on restreint les possibilités de devenir citoyen, par exemple, à avoir deux parents citoyens. Ou bien, à d'autres moments, on dit un seul parent suffit. Donc, on peut être à moitié étranger, mais pas tout, etc. Et ça, c'est une adaptation au nombre total de citoyens, parce qu'on se disait que ça ne peut pas excéder un certain nombre, sinon on n'y arrivera plus. Sinon, on n'arrivera plus à faire de la démocratie directe s'il y a trop de citoyens. Alors, ils auraient pu trouver une autre mesure. Ils auraient pu dire, si on s'agrandit trop, on se scinde. Et d'ailleurs, il y a eu des scissions très régulières, c'est-à-dire toute la politique de colonisation, d'installations de petits comptoirs qui a fondé Marseille, par exemple. Toute cette politique d'essaimage tout autour de la Méditerranée obéit à cette idée qu'une cité doit rester petite, parce que sinon elle ne peut pas être autonome. Et donc, une fois qu'elle est trop grande, ou qu'il y a une trop grande dissension interne, hop, il y a tout un groupe qui part et qui va s'établir ailleurs. Et qui refondent ces nouvelles institutions. Donc tout ça est assez cohérent, je pense. Ça dépend. Il y avait des groupes qui étaient très contents de partir ailleurs. Ça devait être exaltant d'aller créer une cité de toutes pièces, faire une nouvelle constitution. Ça devait avoir un côté exaltant. Donc c'était des volontaires qui partaient en général. L'ostracisme est autre chose. L'ostracisme, c'était vraiment. C'est-à-dire que quand. Ça pose le problème plutôt de l'individu par rapport au groupe. C'est-à-dire l'ostracisme, c'est une exclusion de la citoyenneté, temporaire ou définitive, de quelqu'un qui semble prendre trop de pouvoir dans la cité. Quand on pense que quelqu'un prend trop de pouvoir personnel, pas comment dire, pas institutionnellement, puisque institutionnellement, ce n'est pas possible. Mais justement, par son charisme, par sa capacité rhétorique, par le fait qu'il rassemble beaucoup de gens, quand il vote, tout le monde vote comme lui, etc. Voilà. Donc, par ce pouvoir-là, qui est un pouvoir, au fond, de qualité personnelle. À ce moment-là, on disait, il est dangereux. Ce type-là, il est dangereux. Il est en train de mettre en danger la démocratie. Et c'est vrai.
Oui. Hein,
la démocratie tombe dans la démagogie, à partir du moment où, effectivement, tout le monde suit quelqu'un pour son charisme, non ? Donc voilà, l'ostracisme visait en principe à ça. Alors évidemment, on sait qu'il y a eu des dérives, qu'il y a eu des règlements de compte, bon, mais...
Ce qui n'est pas dans la thèse de Christophe-Louis concernant l'autonomie, c'est qu'il savait très bien aussi que l'esprit de Breguer était humain. Alors est-ce qu'il a abordé dans ses ouvrages, parce que comment, je dirais, c'est un fait, ça n'a pas de compte, est-ce qu'il a abordé dans ses... Et la pensée unique, elle découle un peu ça, l'esprit de Breguer, des individus de tout groupe humain.
Vous voulez dire le conformisme, hein, le fait de...
En plus, comme il était psychanalyste, il a vu la portée, non, certainement.
Alors, je ne pense pas justement que...
Les gens, justement, nous sommes groupés, les dernières pensées, les quatre physiquement.
Ah ben, il en a parlé abondamment, mais pas spécialement comme ça. C'est-à-dire que lui, il parle de sociabilité nécessaire de l'être humain. C'est-à-dire, il pense que l'être humain ne peut pas vivre autrement qu'en société. L'être humain ne peut pas vivre autrement qu'en groupe, en collectif, pas nécessairement très grand. Hein, ça peut être des petites entités, mais il ne peut pas vivre, tout simplement, il ne survivrait pas s'il n'était pas en collectivité. Et pas seulement à cause du fait qu'il serait trop faible pour sa survie, mais aussi à cause du problème de transmission, de culture, du fait que le petit humain, quand il naît, n'est absolument rien et qu'il reçoit tout son entourage. Donc, pour lui, il est évident que l'homme est un animal social. Mais entre social et grégaire, il y a une nuance. C'est-à-dire que la socialité de l'individu n'empêche pas qu'il est capable de faire autre chose que de la répétition. Il est capable d'autre chose que de la répétition et de l'imitation. Il répète et il imite, c'est sûr. Il le fait aussi. Mais il est aussi capable de mettre en question cette répétition et cette imitation. Et c'est ce que j'illustrais lors de la première séance d'ailleurs par l'importance de la question « pourquoi ?» qui apparaît à un moment très précis de la petite enfance. C'est ce moment-là où le petit enfant, en fait, devient social et non nécessairement grégaire. C'est-à-dire c'est ce moment où il ne se contente pas d'imiter, il dit « mais pourquoi on fait ça comme ça ?» Et si on entretient cette tendance à ce que rien ne soit évident et à ce qu'il ne suffise pas simplement de répéter tout le temps les mêmes gestes sans demander la justification, eh bien, si on entretient cette curiosité, cette mise en question, cette simplement interrogation, cette réflexion sur le pourquoi, alors à ce moment-là, on n'aura pas des individus grégaires. On aura des individus qui seront toujours sociaux, mais qui seront toujours capables d'interroger le faire social et la représentation sociale. Alors, dans notre société, on est un peu dans l'entre-deux. Je veux dire, tout existe. Hein, tout existe et il faut voir quelle tendance on va essayer de renforcer. C'est sûr qu'on peut essayer de renforcer la tendance au questionnement perpétuel, à dire, mais il n'y a pas de raison. On peut renforcer cette tendance parce qu'elle existe. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas majoritaire, qu'il y a une tendance au conformisme, hein, au fait de faire comme tout le monde, le désir de faire comme tout le monde, et c'est précisément l'emprise de ces significations imaginaires le privilège de des biens matériels, par exemple, le fait de relancer constamment les besoins, des besoins qui sont définis d'une manière unique, précisément, hein, les pensées uniques, qui sont définies de manière unique. Tout le monde doit avoir la même chose, tout le monde veut les mêmes objets. Mais ce n'est pas inéluctable. Précisément, ça c'est vraiment l'essentiel du message de Castoriadis, c'est que là-dedans, il n'y a rien d'inéluctable. C'est-à-dire qu'il y a toujours une ouverture vers la mise en question de ça et vers... la singularisation par rapport à un modèle dominant.
Il devient conscience que c'est très confortable.
Bien sûr. Mais en même temps, il y a eu des époques où l'imitation et le conformisme étaient moins valorisés qu'à notre époque. Je veux dire, il ne faut pas remonter si loin, mais quand même, les années 60, c'était des années où il y a eu une explosion de singularité, une explosion de désir de changement, de désir de nouveauté, de désir d'autre chose, et avec une revendication créatrice. Créatrice, nous voulons des choses que nous créerons nous-mêmes. Nous ne voulons plus répéter, justement. Nous ne voulons plus entrer dans la routine, entrer dans dans l'uniformisation, etc. Donc, il y a eu des époques, et bon, son livre est issu de ces époques, hein, où c'était quand même un tout petit peu plus facile. Et d'ailleurs, Castoriadis est devenu plus pessimiste vers la fin de sa vie. Hein, je veux dire, un titre comme « La montée de l'insignifiance » révèle un certain pessimisme. On est dans l'insignifiance, c'est-à-dire on est devenu incapable de créer des nouvelles valeurs, des nouveaux désirs, des nouvelles représentations. Mais ce n'est pas inéluctable, c'est jamais total. Il n'y a jamais de fermeture totale. Donc ça, nous, si vous voulez, c'est un peu le rôle de celui qui a pris cette conscience, c'est un peu son rôle de la répondre, de dire « Attends, demande-toi pourquoi tu fais ça. » Non, c'est quelque chose qu'on peut répondre, je pense, assez facilement, parce que on a tous la capacité, en tout cas, de comprendre ce message. Après, il faut le vouloir.
Il y a un moment où, à propos de la valeur symbolique, tu as dit que les symboles, en fait, à propos de l'économie, que d'une part les symboles, alors il y avait deux éléments, que d'une part c'était des symboles qui. Mais qu'ils n'expliquent pas.
Qui ne renvoyait rien de réel.
Voilà, ne renvoyait rien de réel, et il y avait une autre caractéristique.
Ni ne sont capables de le penser, de le manipuler.
Ni ne sont nécessaires, voilà, pour manipuler le réel. C'est nécessaire. Et en fait, par rapport à la première chose, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ces symboles, prenons l'argent par exemple, ce n'est pas un symbole qui, d'une manière très concrète, représente le réel, c'est-à-dire une unité de mesure de la désirabilité de n'importe quelle chose. Et cette chose peut être quelque chose de très concret, échanger de la nourriture contre du travail, ou même quelque chose d'abstrait, une œuvre d'art, ou du temps, ou des choses comme ça. Et d'autre part, savoir que ces symboles ne sont. Questionner ces symboles parce qu'ils ne sont pas nécessaires à manipuler le réel, est-ce qu'il existe un seul système où ces symboles sont nécessaires à manipuler le réel? Est-ce que les symboles ne sont pas de toute façon arbitraires, conventionnels, et donc aucun d'entre eux n'est nécessaire à proprement parler à manipuler le réel? On va toujours choisir un autre système symbolique pour manipuler le même réel.
Oui, alors la première partie de la question, c'est... Il y a toute la théorie marxiste qui répond, c'est-à-dire sur le fait que l'argent est devenu détaché de la simple valeur d'usage, c'est-à-dire que l'argent n'est plus justement une simple... d'usage ou d'échange. L'argent n'est plus simplement un moyen d'échange, c'est-à-dire un moyen qui permet de comparer la valeur de choses différentes pour voir comment est-ce qu'on peut les échanger l'une contre l'autre. Donc ce qu'il était au départ, si du moins... ce qui est la représentation canonique de l'apparition de la monnaie, elle a été introduite pour ça. C'est ce que disent en tout cas les penseurs de l'Antiquité qui étaient proches du moment où est apparue la première monnaie, c'est vers le 7e siècle, donc c'est pas si loin. Et donc ils disent qu'on a introduit la monnaie pour permettre pour faciliter le troc, pour permettre de... Donc d'une part aussi, pour permettre d'étaler dans le temps aussi l'échange, c'est-à-dire qu'un jour tu me donnes ça, mais je n'ai pas besoin de te donner le même jour ce qui vient en échange, je peux te le donner à un autre moment et tu me donnes un symbole de ce que je t'ai donné pour qu'on s'en souvienne, etc. Bon. Donc ça c'est l'argent qui est directement connecté avec le réel. Mais à l'heure actuelle, l'argent n'est plus du tout connecté de cette manière-là avec le réel. Peut-être pour les gens qui le gagnent péniblement, tout juste ce qu'il faut pour échanger des besoins de première nécessité. Pour eux, on peut dire que l'argent est encore directement connecté avec le réel. Telle somme, ça va me permettre de manger. Telle somme, ça va me permettre de payer mon loyer. Ok, ça d'accord. Pour eux, c'est encore directement connecté. Mais pour ceux qui manipulent les finances, comme ce qui est caractéristique du système capitaliste, pour ceux qui manipulent toutes ces finances, l'argent est complètement abstrait. Ils n'ont absolument pas besoin de manipuler ces énormes quantités d'argent pour savoir contre quoi ils vont échanger leur alimentation. Ça n'a aucun rapport. Donc il y a une autonomisation de la sphère financière depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Donc voilà, je pense que c'est assez reconnu. Et Et tout ce qui, toute cette extrême spécialisation des symboles de la finance, c'est-à-dire qui fait que, par exemple, on utilise des tas de termes autour des problèmes financiers, des crises financières, etc., termes dont il faut vachement longtemps pour qu'on comprenne à quoi ça, ça fasse référence. Quoi. Ça fait référence à quoi, les subprimes? Pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est les subprimes, vous devez passer par une multiplicité d'autres... d'autres processus, activités, institutions, etc., qui finalement aboutissent à ça. Donc c'est extrêmement déconnecté du réel, extrêmement. Et c'est comme ça pour tous les symboles de la finance. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça n'est pas nécessaire pour manipuler le réel? Alors qu'est-ce qui serait nécessaire pour manipuler le réel ou pour le penser? Pour le penser, c'est plus facile parce que on peut dire que justement la rationalité scientifique permet de penser le réel. Si je veux comprendre de quoi est faite cette table, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de me doter de significations, de symboles qui vont me permettre d'analyser en profondeur ce que c'est que cette table. Donc ça va me permettre de penser le réel, c'est raccordé au réel. Ce sont des symboles rationnels qui sont raccordés directement au réel, pour le penser, pour le comprendre. Alors pour le manipuler, ça serait, si vous voulez, les techniques les plus... les plus basiques, par exemple, pour, enfin, d'utilisation de notre environnement. Donc, comme tout être vivant a besoin d'utiliser son environnement pour sa survie, il y a toute une série de techniques qui ont été développées par les êtres humains, précisément d'ailleurs en raison de leur faiblesse, en raison du fait qu'ils ont très très vite dû céder d'autres choses pour compenser leur faiblesse. Le fait qu'ils courent très lentement, ils ne peuvent pas monter aux arbres, enfin, ils ne peuvent pas atteindre facilement des proies, etc. Donc, ne fût-ce que pour s'alimenter, ils ont très vite développé des techniques. Donc, ils ont développé des moyens de manipuler le réel. Et ça, c'est des moyens de base, vraiment, nécessaires à la survie. Et donc, ces symboles, si vous voulez, enfin, les symboles, par exemple, de l'archer, enfin, du chasseur, de toute la symbolique autour du chasseur, etc., bon, on peut dire que ce sont des symboles qui sont directement en rapport avec le réel, pour le manipuler, pour la subsistance. Encore une fois, on n'en est plus du tout là dans l'économie. On n'en est plus du tout mettre au point des techniques qui vont nous permettre de subsister. Au contraire, plus on met au point des techniques, plus elles nous empêchent de subsister. Maintenant, on est arrivé à l'inverse. On devrait justement retrouver les techniques plus simples pour subsister. Voilà. Est-ce que ça... Bon, ben, si tu vois bien, on s'arrête là et on poursuit la semaine prochaine. Merci.
Merci.
Il est éteint maintenant.